Bonsoir. Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a fait le bilan général de l'année 2014 jusqu'au premier trimestre 2015. Du point de vue sécuritaire, le Premier ministre a affirmé que toutes les provinces ont été marquées par une stabilité des paix et des sécurités, conséquence d'une professionnalisation continue de l'armée congolaise. Quant à l'aspect économique et social, le chef du gouvernement a indiqué, entre autres, que le taux de chômage en RDC est passé de 60 à 40%. Quelle lecture faire du bilan dressé par le Premier ministre? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 11 mars 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Franklin Tshamala, communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Tshamala, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Valentin Moubaké, cadre de l'UDPS et conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Monsieur Moubaké, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jonas Tshombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Monsieur Tshombela, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Maxime Kabila de Lubumbashi au Katanga. Le Premier ministre a félicité dans certains domaines de la vie nationale que je ne saurais énumérer ici. Ses empreintes sont visibles depuis qu'il est à la tête de l'exécutif national. Mais quant au sujet du jour concernant le chômage, je demanderai au Premier ministre d'user d'un peu des retenues car c'est un domaine très sensible dans ce pays. Olivier Zawadi de Bounia dans la province orientale. Quant à moi, ce bilan s'oppose au quotidien de Congolais. Cette affirmation serait qualifiée de gratuite en observant de près ce que vivent les Congolais de l'arrière-pays. Merci de nous suivre en Bujimayi au Kassai Oriental sur la 93.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a dressé le bilan de l'année 2014 et du premier trimestre 2015 devant la presse. Le mardi 3 mars dernier à Kinshasa, le chef du gouvernement a passé au peine fin tous les domaines de la vie congolaise en partant de l'aspect politique sécuritaire au domaine économique et social. Le condensé de sa communication avec vous, Berry Franklin Luchaka.
Selon ses propres dires, Augustin Matata Mponyo dresse ce bilan par, je cite, « devoir de redevabilité », fin de citation, devant la presse nationale et internationale. Tous les domaines de la vie nationale ont été scrutés. Du point de vue politique, diplomatique et sécuritaire, le chef du gouvernement affirme, je cite, « la situation se présente globalement stable », fin de citation. Les arguments du Premier ministre sont notamment la victoire des FARDC sur les groupes armés comme le M23, les ADF et actuellement les FDLR sur le plan militaire, ce qui fait dire au chef du gouvernement que toutes les provinces ont été marquées par une stabilité de paix et de sécurité, conséquence d'une professionnalisation continue de l'armée congolaise, la montée en puissance de l'éthique et de la moralité dans le chef des troupes. Du point de vue diplomatique, Matata Mponyo pense que la RDC a vu son partenariat se consolider avec ses pairs de la sous-région. La RDC est devenue de plus en plus fréquentable et fait désormais entendre sa voix, a-t-il dit. Dans le volet économique, le Premier ministre a déclaré que le taux de chômage en RDC est passé de 60 à 40%. À en croire ces chiffres, 6 Congolais sur 10 occupent un emploi. Augustin Matata Mponyo s'est réjoui à la même occasion de la croissance économique que réalise la RDC. Des efforts, confirme-t-il, que reconnaît aussi le PNUD dans son dernier rapport national sur l'indice de développement humain, IDH. Et du point de vue éducation, le Premier ministre brandit la construction de 1000 écoles par an. Matata Mponyo a confirmé que son gouvernement a dépassé le cap de 500 écoles construites et pour la santé, il est prévu la réhabilitation des 1000 centres de santé et la construction de 300 hôpitaux de référence en premier lieu.
Merci Berry Franklin Luchaka, Franklin Tshamala, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. On va commencer par l'aspect politique, diplomatique et sécuritaire. Le chef du gouvernement a affirmé, je cite, que la situation se présente globalement stable. Fin de citation. Quel est votre point de vue?
Oui, merci pour l'invitation, madame. Je voudrais confirmer que la situation de notre pays, du point de vue sécuritaire, politique et diplomatique, en 2014, était caractérisée par une stabilité que tout le monde a vécue. Le Premier ministre y est revenu au cours de sa conférence de presse en relevant le fait que c'est au cours de cette année où, proprement, notre armée a défait successivement l'M23, les ADF Nalou sur le front de la province orientale et d'autres groupes armés, et évidemment avec un concours actif des ses partenaires au nombre desquels se trouve la brigade internationale des Nations Unies. Il a notamment relevé le fait que ceci a été rendu possible grâce à un équipement appuyé à nos forces armées, à une politique de professionnalisation de nos forces armées qui est activée, et à une rigueur dans la discipline nos forces armées qui fait en sorte que les éléments indisciplinés sont sanctionnés en règle et les brebis galeuses écartées carrément des rangs de nos troupes, une montée en puissance qui ne fait plus l'ombre d'aucun doute au-delà de nos frontières, lorsqu'on sait que maintenant nos forces armées forcent l'admiration, y compris dans les pays limitrophes, comme la Centrafrique, où la brigade de nos forces armées qui est déployée sous la bannière des Nations Unies aujourd'hui est en train de marquer les points sur le plan de l'éthique, de la discipline et même de l'équipement. Et donc le Premier ministre a voulu insister sur ces choses pour que d'aucuns ignorent que ce pays est en train de sortir du trou noir où notre cupidité l'a plongé, où notre irresponsabilité collective l'a plongé. Il sort du trou noir, il remonte à la surface et il est en train d'ailleurs d'amorcer un mouvement en hauteur.
Alors Franklin Tshamala, toutes les provinces ont été marquées par une stabilité des paix et des sécurités selon le Premier ministre Matata Mponyo, mais on sait qu'en 2014 le territoire de Beni a connu beaucoup d'atrocités. Peut-on parler des paix, stabilité et sécurité dans ce cas? C'est pas seulement Beni, même en province orientale.
Lorsque le premier ministre parle d'une situation de paix et de stabilité que toutes les provinces ont connues, il ne parle pas à l'absolu. Il ne parle pas à l'absolu. Nous sommes sur la terre, on n'est pas
mais
au ciel.
Mais pour une personne qui habite Béni, lorsqu'elle entend ces genres de propos, qu'est-ce qu'elle peut se dire?
Madame, on n'est pas au ciel, on est sur la terre. Déjà à Kinshasa même, c'est au quotidien que vous apprenez qu'un bandit urbain a usé de la violence sur tel ou tel autre. Mais globalement, la situation du point de vue de la sécurité, du point de vue politique, du point de vue diplomatique dans notre pays était stable. Et c'est des domaines dans lesquels le relatif est toujours usé pour montrer que l'absolu n'existe pas dans le domaine de la gestion sécuritaire.
Alors, sur le plan de la diplomatie, le Premier ministre a affirmé que la RDC est devenue de plus en plus fréquentable et fait désormais entendre sa voix. Ce n'était pas le cas avant?
Madame, vous vivez dans ces pays, vous savez que déjà dans les regroupements régionaux et sous-régionaux, la CIGL, la SADC et même le COMESA, pour ne parler que de ces regroupements-là, nous n'avions plus de la voix dans ces regroupements, et c'est d'autant plus que nous étions d'abord en retard par rapport à l'acquittement de nos arriérés, c'est qui a été régularisé depuis lors, vous le savez. Et puis vous le savez, comme vous le savez, nous sommes un pays post-conflit, et c'était la cacophonie sur ce plan-là. C'est des rébellions qui allaient, qui donnaient de la voix, c'est des groupes... Mais maintenant, là, les contextes de la pacification dans laquelle on a engagé le pays et le renforcement de la gouvernance au plan diplomatique, au plan politique, font en sorte que ce pays-là parle de la même voix dans les instances sous-régionales, dans les instances régionales. Et ce pays-là, c'est un pays qui est de plus en plus respecté parce qu'en fait, il a cessé d'être un pays perméable où n'importe qui pouvait franchir les frontières et venir imposer sa loi. Maintenant, pour franchir les frontières de notre pays, y compris à l'Est, où n'importe qui pouvait venir faire n'importe quoi, on réfléchit deux fois. Et donc, le Premier ministre a insisté sur ces choses pour que l'on comprenne dorénavant que dans ce pays, nous faisons deux pas.
Merci.
Peut-être des petits pas, mais en avant.
Merci Franklin Tchamala, Valentin Moubaki, cadre de l'UDPS et conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Quel est votre point de vue par rapport à l'affirmation du Premier ministre selon laquelle toutes les provinces de la RDC ont été marquées l'année passée, disons l'année 2014 et au premier trimestre 2015 par une stabilité des paix et des sécurités?
Oui, tout à l'heure, on vous disait qu'il ne parlait pas de manière absolue, mais quand on dit toutes les provinces et on parle français, ça veut dire de manière affirmativement absolue. Ce qui est faux d'ailleurs. Nous allons vous le démontrer. Mais avant cela, précisons que le Congo connaît des guerres depuis l'avènement de l'AFDEL dans ce pays, en 97. Et donc, monsieur le Premier ministre Matata Mponyo, qui fait semblant de constater quelque chose qui lui serait tombé sur la tête, ou quelque chose qui lui est inconnu, ce n'est pas correct de sa part. Les guerres dans ce pays ont commencé depuis l'AFDEL en 97. Et son gouvernement est l'émanation de l'AFDEL. Il ne faut pas que les pyromanes se fassent passer pour des sapeurs-pompiers. Mais là où en sommes-nous sur le plan sécuritaire? Parlons de M23. Ce groupe, héritier du CNDP et du RCD, comme tout le monde le sait, s'est dispersé dans la nature au Rwanda et en Ouganda. On parle de 1700 hommes, personne ne saura jamais leur nombre exact, et parmi eux qui sont réellement des Congolais. Et donc, aussi longtemps que leur situation ne sera pas clarifiée, la sécurité de la RDC ne sera jamais garantie.
Tout au moins sur cette partie. Mais les M23 ont été défaits, M. Moubaké.
Ils sont en Ouganda et au Rwanda armés.
Vous avez des preuves.
Mais ça se dit. Et je suis
ça
devant,
se dit, vous n'avez pas de preuves.
Je suis devant les journalistes. Depuis que le Congo a commencé de négocier à Kampala avec les M23, aucune solution n'a été trouvée. Demandez à M. François Mwamba, qui est responsable des mécanismes mis en place à ce sujet. Aucune réponse n'a été donnée. Et donc, cette insécurité-là demeure. Et d'ailleurs, selon la revue Nouvelle du Continent, ce groupe serait en reconstitution au Nord Kivu, à travers le recrutement et l'entraînement des jeunes musulmans du Nord et du Sud Kivu, sous la fausse appellation Adef Nalu, que le gouvernement prétend avoir démantelé ou vaincu. Ils opéreraient du côté de Beni, Lubero, principalement, et aurait des relations avec les djihadistes de Somalie et du Kenya. C'est la revue Nouvelle du Continent qui le dit. Pendant ce temps, on nous dit que tout est calme, toutes les provinces sont calmes, et on n'explique même pas les 300 morts, vous avez posé la question ici, en 3 mois à Beni. Et aucun assaillant, aucun n'a été arrêté jusqu'à présent. L'FDLR. Maintenant, on est en train de
combattre les FDLR.
De traquer, paraît-il, les FDLR. Nous précisons d'abord que les FDLR ne sont pas des réfugiés. Les FDLR ne sont pas des exilés politiques. Ce sont des gens présumés coupables du génocide au Rwanda. Et après avoir tué plus d'un million de personnes au Rwanda, ils continuent à tuer au Congo. Comment comprendre la tendresse avec laquelle ce gouvernement traite ce groupe-là? Au moment où nous parlons, vers Kisangani, ils sont cantonnés et nourris par le Congo. Des bandits. Alors.
Et donc, vous estimez qu'il n'y a pas eu d'effort de ce côté-là, du côté sécuritaire?
Mais laissez-moi vous dire, parce que nous parlons de toutes les provinces. Je vous ai parlé du M23 et maintenant des FDLR. Les FDLR, rappelez-vous, ils ne sont pas qu'à l'Est. On les avait signalés au Bandundu il y a quelques années. On les avait signalés à Mwenedi Tuangandajika. Et même du côté de Kalemie, on n'en parle plus. Que sont-ils devenus? Il y a eu même un scénario tragicomique dans ce pays, où l'armée rwandaise et l'armée congolaise auraient décidé de traquer ensemble les FDLR. Quel en était le résultat? Aucun résultat. Bien au contraire, les FDLR, selon nos estimations, seraient au nombre de 35 000, je dis bien 35 000, dans le territoire de Walikale et de Chabunda. On peut vous citer les localités.
À vérifier.
Ben oui, mais nous, au moins, on a des chiffres. Ils sont où? Ils sont à Nyambembe, ils sont dans la forêt de Lulingu, ils sont à Makutano, ils sont à Suiza, à Katulo, à Kisuku, à Mapimo, à Biangama, même à côté de Kingulube, à quelques 50 km de Bukavu. On les traque où? Et pour quels résultats? Dans le sud Kivu, ils sont à Ngando, à Kakanga, à Kitamba. Voulez-vous qu'on cite jusque quand? Ça, c'est les FDLR. Nous arrivons au Mbororo.
Rapidement, parce qu'on va
au Mbororo, dans la province orientale. Ces éleveurs soudanais, venus au Congo depuis 2002, estimés à 4000 hommes, font la loi à Farage et à Dungu. Le gouvernement n'en parle pas. Et enfin, les Bakatakatanga, qui opèrent dans le triangle de la mort, Mitoa, Bapueto et Moba. Mais qui parle de ces gens-là, qui sèment la désolation là-bas? Alors, quand on vous dit toutes les provinces sont stables et sécuritaires, mais on se moque de qui?
Merci Valentin Moubaké, Jonas Tombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Quelle est votre analyse lorsque le chef du gouvernement dit, par exemple, on prend l'aspect sécuritaire et diplomatique, que la RDC est devenue de plus en plus fréquentable et fait désormais entendre sa voix? Vous avez suivi l'analyse de M. Franklin Tshamala par rapport à la sous-région. La RDC aujourd'hui est capable de dire non, de taper du poing sur la table, c'est fait entendre. Et sur le plan sécuritaire, toutes les provinces sont stables et sécurisées.
Merci pour la question. Je crois qu'il y a deux choses que je voulais dire avant que je réponde à la question. La première chose, savoir qu'est-ce qui était prévu dans l'agenda du Premier ministre sur le plan sécuritaire qui devait être exécuté pendant cette période du bilan. Et qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Nous avons l'impression que le Premier ministre s'est évalué seul. L'évaluation viendrait d'une personne indépendante et ça serait plus objectif. Il y a risque ici de tomber dans la subjection, de l'autosatisfaction de l'action qu'il a dû mener entre-temps. Donc nous, on aurait souhaité, voilà ce que nous avions prévu sur le plan sécuritaire pour nos militaires, pour nos services de sécurité, pour la police. Voilà ce qui a été fait, mais voilà ce qui n'a pas aussi été fait. Mais là, on relève le point qui ont été faits, et là, c'est la personne qui a réalisé ce point qui le relève. Nous aurions souhaité que ça soit fait par une opinion beaucoup plus non-partisane, indépendante. Ça pourrait nous aider. Mais revenons maintenant sur la question. Vous avez suivi même autour de cette table, même ceux qui nous suivent au Katanga, ceux qui nous suivent à Beni, ceux qui nous suivent dans la partie est de notre pays, ils savent bien que la stabilité n'est pas encore revenue ici dans notre société. Et la paix n'est pas encore là.
On n'est pas encore revenu totalement, mais il y a quand même un pas.
Mais vous savez, le problème de la paix, c'est quoi? On nous dit qu'on a gagné le M23. Est-ce qu'on peut nous dire aussi pendant cette même période qu'est-ce qu'on avait avec les victimes, la population? Ces femmes qui ont perdu leur mari, ou ces maris qui ont perdu leur femme, ou ces femmes qui ont été violées pendant ce temps, quel est le bilan? Voilà des choses que la population attend. Quel est le bilan qu'on a fait des victimes? Pendant ce temps, tout ce que nous savons, qu'on a dit amnistier les bourreaux. On a dit amnistier les bourreaux. Et ça ne sécurise personne quand les bourreaux, si bientôt peut-être qu'ils vont revenir, dans le même système, comme on parle de l'intégration, brassage qu'on sort, nous risquons de revenir sur les mêmes histoires. Donc, nous ne pensons pas, la sécurisation n'est pas encore revenue totalement sur notre sol, sur l'ensemble du pays. La situation de Beni, chaque jour, nos collègues qui sont à Beni, et nous les suivions, je pense ici, à mon collègue Omar Kavota, chaque jour, ils nous envoient les statistiques de mort. Et nous sommes en train d'assister là. Maintenant, nous voulons savoir, pendant ce temps, à Beni, on a arrêté combien? Et combien sont en instance d'être jugés? Et voilà autant de questions que nous avons. C'est ça qui sécurise. La sécurité n'est pas seulement spectaculaire, mais aussi on doit la vivre. Donc, il faut qu'on arrive à ce point-là. Si on peut aller dans d'autres provinces, moi je vais dans la province où on ne soupçonne rien, dans le Kassai occidental oriental, à Dimbelenge. Mais il n'y a pas, il y a deux villages qu'on a brûlés là-bas, les populations de deux villages. Ça, ce n'est pas un signal de la sécurité, ça. Il y a deux villages où les gens se sont tués et ils se précipitaient de terre. Ça, c'est connu. Donc, Pendant cette période, il ne faut pas qu'on relativise les choses, mais il faut qu'on les regarde réellement en face, de telle manière à trouver des solutions. Donc sur le plan sécuritaire, la situation de notre pays reste toujours volatile et précaire même. Donc je pense que si moi j'étais le Premier ministre, je ne tomberais pas dans le jeu de me faire le bilan, parce que ça risque de nous faire tomber dans l'autosatisfaction. Mais il faut aussi qu'il nous relève ce qui n'a pas été fait pendant ce temps-là sur le plan sécuritaire. Notre pays est fréquentable. Oui, nous disons notre pays est fréquentable. Mais vous savez, parlons même sur le plan diplomatique à propos de tout ce qu'on nous donne comme coopération sur le plan, parlons même avec les Chinois, pourquoi pas, les routes qui sont faites parce que notre pays... Donc, il faut que la qualité de la fréquence là doit nous intéresser aussi. Parce qu'on nous a fait le route sur les huileries. Tout le monde sait, à la hauteur des huileries, quand il pleut, personne ne peut passer. C'est venu aussi à cause de cette fréquentation que nous avons, que nous saluons. Mais la qualité de cette fréquentation-là, c'est quoi? C'est ça qu'on veut. Les routes, à la hauteur des Seine-Ouest. La route est en train de partir encore, alors qu'il n'y a pas longtemps que cette route a été réhabilitée. Donc, sur le plan diplomatique, il faut que nous réfléchissions. Si la qualité, c'est vrai, on peut payer bien dans les instances internationales, mais nous avons loupé une occasion sur le plan diplomatique, lorsque à la francophonie, nous allions aussi être à mesure de présenter un candidat sur le plan diplomatique. Mais nous n'avons même pas osé. Mais le juge qui est passé à la Cour pénale internationale, il est passé sur le compte de l'effort personnel, il n'a pas été soutenu par notre pays. Voilà autant de questions qui suscitent l'accompagnement et une réflexion en profondeur sur le plan diplomatique et sécuritaire de notre pays.
Merci Jonas Tchombela. Franklin Tchamala, autosatisfaction du Premier ministre, un bilan dressé par lui-même, comme l'a dit Jonas Tchombela, on aurait souhaité que ce soit une personne tierce qui dresse ces bilans. Réaction.
Mais je suis désolé, madame. Le Premier ministre, au cours de sa conférence de presse, s'est appuyé notamment sur l'évaluation qui est faite du processus de développement de notre pays dans le cadre du rapport national sur l'indice de développement humain. Et ça, ce n'est pas le Premier ministre qui a écrit ces rapports, ce n'est pas notre pays, c'est le programme des Nations Unies pour le développement.
Qui a parlé de la sécurité dans le pays.
Dans l'introduction du rapport, mais également qui évoque le fait qu'aujourd'hui, ce pays-là est en mouvement positivement, et que si nous gardons le cap de la dynamique dans laquelle nous sommes engagés, l'émergence dont nous rêvons, est à notre portée dans 13 ans. C'est dit là-dedans. N'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas. Mais l'auto-évaluation, c'est un exercice normal que l'on peut faire pour autant qu'on les fasse dans l'objectivité la plus totale. Bon, maintenant, en disant, ce pays-là connaît une stabilité, une stabilité globale dans toutes ses provinces. Mais le Premier ministre, il vous donne la cartographie d'un pays où nous ne connaissons plus les situations des pans entiers ou des provinces entières administrées par des groupes armés ou des rébellions. Il vous présente la cartographie d'un pays qui est à la conquête de son espace.
Mais vous avez suivi, M. Moubaké, on arrête les soi-disant rebelles, mais on ne les présente pas, on ne donne pas les bilans.
Madame, la lecture de M. Moubaké ne changera pas pour autant que c'est une lecture généralement qui est faite dans le cadre d'une politique donnée, d'une politique de haute de là pour que j'y m'y mette. C'est ça la politique. Mais j'ai dit, débarrassons-nous un peu de l'arrogance, parce que l'arrogance dresse devant l'élite congolaise un mur d'ignorance totalement, qui fait que nous ne croyons même plus en nous-mêmes, en notre capacité d'extirper de nous des solutions qui vaillent par rapport à l'interpellation de l'avenir de notre pays. Ce pays-là change-t-il? Ceux qui regardent ces pays de l'intérieur comme de l'extérieur nous disent, les visages du pays changent. Maintenant, ce pays est-il devenu le ciel? Nous disons non, il ne devient pas le ciel. Et il ne deviendra pas pour autant. Mais ce n'est pas parce que les terroristes tuent les gens tous les jours à Paris que Paris n'est pas stable. Vous comprenez? Il faut bien comprendre les choses et bien les conceptualiser quand on parle des matières sécuritaires. Et donc, je voudrais affirmer sans embâche que ce pays-là connaît une stabilité globalement, comme l'a dit le Premier ministre.
Alors, on va prendre pour vous, Franklin, je vais vous redonner la parole, mais on prend d'abord cette réaction pour vous qui nous vient de Bukavu au sud de Kivu.
Aimé Chirinda, j'appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du sud de Kivu. En donnant un tel bilan devant la presse tant nationale qu'internationale, je crois que le Premier ministre sait de quoi il a parlé. Je pense, si ce discours n'est pas pour la consommation extérieure, le Premier ministre devrait alors expliquer concrètement les Congolais par rapport à leur vécu quotidien, car pour moi, ce bilan ne reflète pas la réalité à l'intérieur, à moins qu'à Kinshasa, où siège le gouvernement, la situation sécuritaire est stable et le chômage est réduit de 60 à 40%. Nous, ici, à l'intérieur du pays, nous vivons une autre vie.
Alors là, on passe directement à l'aspect économique et social, où le Premier ministre a déclaré que le taux de chômage est passé de 60 à 40%. Vous réagissez à cette réaction de cet auditeur de Bukavu?
Je veux réagir sans embâche. Lorsque le Premier ministre, abordant les questions de gouvernance économique et sociale, nous dit que la stabilité des prix dans ces pays, c'est une réalité. Ment-il? Nous avons clôturé l'exercice 2014 avec une inflation qui n'a pas franchi la barre de 1%. C'est un record jamais connu par ces pays depuis l'indépendance. Mais lorsqu'il nous dit que nous clôturons l'exercice 2014 avec une stabilité monétaire dans les cas dans lesquels le franc congolais n'a pas connu en fait une dépréciation zéro en 2014. Mais c'est un fait réel. C'est un fait réel. La confiance naissante dans cette monnaie-là, elle est due à quoi? Au fait que la gouvernance monétaire est au rendez-vous et fait en sorte que dorénavant nous avons une monnaie stable, une monnaie qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous devenions indifférents devant les dollars ou les francs congolais. Ça, c'est un fait vrai, un fait vécu au quotidien, y compris par mon aîné Moubaké et M. Tshombela, sur les marchés que nous fréquentons. Je dis, c'est des faits vrais. Mais lorsque le Premier ministre nous dit que lorsque vous allez dans les statistiques qui sont produites, y compris par les Nations Unies, on nous dit que le chômage dans notre pays est en baisse. Le chômage, il est quantifié par rapport à la population active de notre pays. Que sur 60% des chômeurs que nous avions il y a quelques temps est reconnu comme tel dans tous les rapports. Nous avons connu une baisse d'environ 20% du taux de chômage. On n'a pas dit ici que fermement chacun d'entre les Congolais a trouvé un travail à durée indéterminée. Non, on dit là dans ces rapports globalement que la population active de ce pays a connu dans les emplois qu'il contracte une baisse du chômage. C'est dit, et c'est ce qui est rendu par les chefs. Et je dis, lorsqu'ils rendent des rapports
mais
comme cela,
chômage, est-ce que vous savez... Il y a eu création d'emplois dans quel domaine, par exemple, pour qu'il y ait cette baisse de chômage?
Je vais avec vous, madame. Vous savez qu'aujourd'hui, à Bukangalonzo, pour planter les légumes sur 1000 hectares, les légumes simplement, 5000 fermiers sont utiles, parce qu'on emploie 5 fermiers par hectare. Madame, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on est en manque de fermiers à Bukangalonzo? Au Katanga, on importe la main d'œuvre dans la filière minière parce qu'il y a des spécificités pour lesquelles, effectivement, on a consommé tout ce que nous avions localement et on ne trouve plus. Et les miniers sont demandeurs.
Mais il n'y a pas que l'agriculture dans ce pays, M. Tshombela.
Je n'ai pris que cela comme exemple. C'est comme pour vous dire, ici et là, par l'affirmative, de la manière la plus absolue possible, que le mouvement du chômage dans notre pays se décline par une courbe qui descend, qui fléchit.
Merci, M. Franklin Tshombela. Valentin Moubriké, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Je suis M. Ngombo Augustin, je vous appelle à partir de la ville de Kinshasa. Je ne partage pas totalement les statistiques telles qu'avancées par son Excellence, M. le Premier ministre, sur la baisse du taux de chômage. Généralement, le taux de chômage mesure les rapports entre le nombre de personnes n'ayant pas un emploi et la population active multiplié par 100. Or, il n'existe pas actuellement dans notre pays des données démographiques fiables suite à la modicité des moyens mis à la disposition des structures telles que l'Institut de Recherche Économique et Sociale, l'IRES, l'Institut National de Statistiques, l'INC, et l'Office National de l'Emploi, l'ONEM. En définitive, sincèrement, il y a un effort qui est fourni par le gouvernement actuel en termes d'emploi, mais pas dans les proportions telles que reprises dans les bilans à mi-parcours de son Excellence. L'échantillon sur lequel il s'est basé pour son analyse est trop restreint et mérite d'être élargi pour tirer des conclusions reflétant la réalité des terrains. Kinshasa et Lubumbashi, ce n'est pas le Congo.
Réaction, Valentin Moubaké, le taux de chômage réduit est passé de 60 à 40%.
L'auditeur a parfaitement raison. Je précise que le rapport du PNUD sur l'indice du développement humain, vous avez posé la question, ne parle pas de la sécurité du pays. J'ai ce rapport. Ce rapport, pour que le Congo passe de la 187e place à la 74e place, pour laquelle on se vante,
on se vante, on est 174e. Nous côtoyons la République centrafricaine, la Somalie, le Sud-Soudan. On n'a pas à se vanter pour cette position-là. Donc, ce rapport-là, pour traiter de ce passage-là du Congo, de ce gain de 13 places, évalue le taux de scolarité, la durée de scolarité, évalue l'espérance de vie qui est passée de 50 ans à 51 ans. En 13 ans, M. Kabila va nous augmenter un an seulement d'espérance de vie. Donc, il faudra attendre combien d'années que Kabila soit au pouvoir pour bénéficier de 10 ans d'espérance de vie. Je ferme la parenthèse. Ainsi donc, ces statistiques-là qu'on donne du chômage sont des statistiques fantaisistes. On vous parle de Bukangalos, je viens de suivre ça ici. Un emploi suppose un travailleur avec un contrat. Vous allez nous montrer les contrats signés avec ces fermiers de Bukangalos pour planter. Avec quelles conditions ces contrats ont été signés, dans quelles conditions, recèlent de quelles conditions sociales? Il n'y a pas de contrat, ce sont des journaliers. La même chose dans le secteur minier, ce sont des journaliers. Ne parlez pas de l'emploi, de résorption de chômage. Donc les 60% là, devenus à 40%, c'est de la pure fantaisie. Et j'ajoute, vous savez, l'affiche présentée du Congo, taux de croissance 9%. Vous entendez, madame, 9%. À faire pâlir tous les économistes du monde. Taux d'inflation, moins d'1% en moyenne. Il est à 0,91%. Je l'ai bien suivi. Et le taux de croissance est évalué à 10% à la fin de cette année. 10%. Eh bien, toutes ces richesses-là, soutenues pendant une période de 10 ans, dit-il. Mais où vont ces richesses? Si le salaire moyen est toujours de $50 par mois, mais où vont ces richesses? En fait, madame, la réalité, c'est quoi? Monsieur Matata Mponyo, et avec son gouvernement, ils se comportent comme des ouvriers qui sont sur un chantier avec un plan pour monter les murs, exécuter les travaux, qui ont été, sur plan bien sûr, qui ont été conçus ailleurs. Et eux, ce sont des ouvriers modèles. On a connu ça dans ce pays depuis Kengo Adondo. Je le cite parce qu'il est vivant. Donc, des chiffres truqués qui n'ont rien à voir avec la réalité. Un pays présenté avec cette fiche-là, c'est un pays en très bonne santé. Taux de croissance 10%. Taux d'inflation moins d'1%. Réserve financière en banque, cette semaine, 1,7 milliard et quelques. Mais ces résultats-là devaient se refléter tout autant.
Ces chiffres ne reflètent pas la réalité.
Ils devaient se refléter tout autant dans le vécu quotidien de la population. Oh, nous sommes loin de là. Ça veut dire quoi?
Il n'y a même pas un certain effort de la part du gouvernement. Mais, vous ne sentez pas un certain effort de la part du gouvernement pour réduire le taux du chômage, M. Moubaké?
Mais où tiennent-ils des statistiques? Nous voyons les gens circuler en ville, des journaliers, il y en a plein partout. Nous n'avons pas des gens avec contrat. Donc, nous ne pouvons pas parler du chômage résorbé. Et donc, la réalité, c'est quoi, madame? Nous sommes ici devant un modèle économique extériste. C'est ça le Congo aujourd'hui. Où, et d'ailleurs, cette croissance, faut-il le souligner, est tirée par le secteur minier. Et qu'est-ce qui caractérise le secteur minier? Parce qu'il a cité les mines ici. C'est la prédation. L'extraction-prédation basée sur un code minier qui doit être abrogé, nous l'avons dit depuis 2004, caractérisé par des mining incontrôlables. Incontrôlables pourquoi? Parce qu'aucune de ces sociétés mining n'a son compte à banque à la banque centrale, contrairement à ce qui est précisé dans le code minier. Les comptes sont logés dans des paradis fiscaux et par définition inatteignables. Voilà le Congo. Et tout ce qu'on comptabilise sur le Congo, sur le dos du Congo, croissance économique, c'est la croissance de Glencore, les KMT, et tous ces gens-là, ça n'a rien à voir avec le Congo. Et le Congo ne reçoit que des miettes dans ce système extériste qui ne nous appartient pas.
Merci Valentin Moubaké, Jonas Tombela. Il y a une réaction pour vous qui nous vient de Kalima, dans la province du Maniema.
Je m'appelle Tiondi Siméon à Kalima. Le taux de chômage ne signifie pas réduire la misère. C'est tout ce que l'on sait, que le salaire d'un fonctionnaire moyen à ce jour ne suffit pas pour couvrir 5 jours du mois.
Alors, cet auditeur pense que réduire le chômage, comme l'a dit le Premier ministre Matata Mponyo, ne signifie pas réduire la misère, surtout quand on sait que le salaire d'un fonctionnaire ne peut même pas couvrir 5 jours.
Oui, mais il a tout à fait raison, parce que Ces chiffres, nous ne savons pas comment on est arrivé à ce chiffre. La réduction, elle est un peu spectaculaire, mais nous ne savons pas comment ça s'est calculé. Vous savez, dans un pays à la croissance, ça suppose qu'il y a production de richesses. Et quand il y a production de beaucoup de richesses, on doit aussi le sentir dans la distribution de ces richesses. Et ceux qui doivent le sentir au premier plan, c'est le fonctionnaire. Je vais vous dire, chez le fonctionnaire eux-mêmes déjà, dis-moi ceux qui travaillent déjà, je ne vais pas arriver encore au problème de chômage. Depuis 2010, il y a des gens qu'on appelle, dans la fonction publique, ceux qui me suivent maintenant le savent très bien, les non-payés. Ces gens ont des numéros matricules, mais ils sont sans salaire. C'est par milliers, ces gens-là. Et ils continuent à plaire jusqu'à ce jour. Dans cette même fonction publique, il y a des gens qu'on appelle des nouvelles unités. Ces gens-là, ils sont sans numéro matricule, sans salaire, on ne sait même pas leur statut dans cette filière-là. Donc, déjà, à ce niveau du peu qui travaille là, il y a déjà un problème. Ils ne sentent pas qu'il y a la croissance. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Cette croissance est faite sur base de chiffres estimatifs. On estime la taille de la population, on n'a pas la vraie taille de la population. Alors, des choses qui sont tablées sur des chiffres estimatifs, c'est très dangereux. Ça ne peut pas refléter la réalité. C'est pour cette raison-là qu'on a un taux de croissance très important, et lorsqu'on voit les niveaux de vie de la population, c'est très pauvre. L'auditeur qui vient de poser la question, il vit ça. Le pouvoir d'achat du Congolais moyen, il est quoi par rapport à ce taux de croissance? Parce qu'on a produit les richesses, on doit les redistribuer. Et comment ces richesses sont redistribuées? On ne peut pas parler dans ce pays des taux de chômage. Moi, j'ai toujours dit, le ministère là qu'on appelle le ministère de l'emploi, on l'appellerait même le ministère des chômeurs. Les statistiques de départ, parce que pour qu'on y arrive, on devait déjà, à ce niveau, je reviens à ma préoccupation du départ, le Premier ministre ferait mieux de nous dire, voilà, les statistiques des chômeurs congolais du départ, c'est autant. Dans ce travail pendant ce temps, j'ai dû faire ça pour réduire ces statistiques à ceci. Là, on nous donne des chiffres. Moi, je suis aussi économiste, je pense beaucoup plus aux chiffres. Le pourcentage ne reflète pas la réalité. Ce sont des approximations, certainement. Ça ne reflète pas la réalité. Donc, je pense qu'ils donnaient les chiffres. Les Congolais, si déjà au Congo, on ne sait pas mesurer la taille de la population, je me demande comment on a pu mesurer la taille des chômeurs. Et les universités, chaque jour, nous déversent sur le marché de l'emploi des milliers de chômeurs. Des milliers de chômeurs. Moi, je suis de la société civile et je vis avec eux. Je vois comment des milliers de chômeurs sont sur le marché de l'emploi et quelles sont ces entreprises qu'on a créées qui ont produit aussi autant du travail pour qu'on puisse parler de l'absorption de ces taux de chômage.
On a parlé de Bukangalonzo. C'est un exemple parmi tant d'autres.
J'en arrive. Bukangalonzo est à Kabeyakamwanga. Bukangalonzo est à Faradje. Bukangalonzo est, je ne sais pas, à Kibilangundu, dans les Bas-Congo ou dans les Bandundu. Il est dans les Bandundu seul. Vous allez dire que toute la population de la République, si le taux de chômage a été concentré dans le Bandundu, c'est comme ça qu'on a dit les résorber. Non, il y a un problème. Donc, le problème, on n'a pas une politique d'encadrement, ni de la jeunesse, ni une politique, ni de l'emploi pour le pays. C'est ce qui pose problème. Donc, moi, je pense que c'est pour cette raison que je voulais pas qu'il puisse lui-même se donner ces statistiques-là. Il ferait mieux de laisser une institution indépendante. Ça profiterait. Lorsque, on a
parlé. M. Chamal a parlé du PNUD, du rapport du PNUD.
Mais je ne voulais même pas revenir parce que j'ai vu que M. Valentin est revenu là-dessus avec le détail. Le PNUD ne parle pas du problème de sécurité. Hein. Le PNUD, même, nous avons fait un bon. Nous devons le connaître. Mais ces bons-là, est fait sur base de quels chiffres? Je dis encore des chiffres estimatifs. On ne maîtrise pas la taille de la population. On ne sait pas nourrir une population qu'on ne maîtrise pas la taille. C'est ça le vrai problème. Les chômeurs qui sont en train de crier, qui parlent là-bas. Donc, nous pouvons dire que déjà ceux qui travaillent ont des problèmes du pouvoir d'achat parce qu'il y a un taux de croissance. Il se pose un problème, du moins au niveau de ceux qui travaillent. Mais ceux qui arrivent, que du reste, vous savez, je reviens du secteur des médias. Beaucoup de vos collègues qui sont dans les médias à travers le pays, ils n'ont pas de contrat, mais ils s'appellent aussi travailleurs. Ils n'ont pas de contrat. On peut le virer à tout moment. Donc, il y a des problèmes. Le travail, c'est un travail avec un contrat. On vous assure qu'après le travail, vous aurez une bonne retraite. Est-ce que cela est possible dans notre pays?
Merci, Jonas Tchombela. Franklin Tchamalaya a une réaction pour vous, Jean-Paul Kaninda, qui nous écrit depuis Bruxelles. Il dit ceci: je tiens d'abord à remercier le Premier ministre Matata Mponyo des efforts fournis à l'amélioration de l'économie de la RDC. Cela dit, il y a quand même quelque chose qui me frustre un peu lorsque j'entends les résultats des réalisations faites en RDC. Il n'y a aucun chiffre concret et vérifiable que l'on trouve dans l'annonce. Chaque année, on demande toujours sur quelle base statistique résultent ces données, rien de tout cela. Il serait mieux d'avoir une amélioration de 0,5% vérifiable et réelle que d'avoir une amélioration de 20% sans donner les chiffres en découlant. Passer de 60 à 40% de diminution de chômage, c'est un exploit qu'aucun pays ne peut réaliser lors d'un exercice annuel. Juste une question à poser aux représentants du gouvernement, c'est vous qui êtes dans cette émission. Il dit ceci: qu'est-ce qui n'a pas été ou quel secteur attend un bilan négatif en RDC, puisque pour le Premier ministre, tout est positif?
Je suis désolé, le Premier ministre a même conclu son point de presse en disant que nous avons encore un long voyage à faire au devant de nous. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup de choses à faire dans ces pays où tout se décline en termes d'urgence. Chacun d'entre nous attend que les morts de sa famille soient ressuscités par Kabila et le gouvernement Matata. C'est ce que chacun d'entre nous attend. Chacun d'entre nous attend que les chômeurs de sa famille qui ont accumulé des diplômes depuis 30 ans, depuis 40 ans, trouvent de l'emploi maintenant que Kabila est aux commandes. Je suis désolé. Mais on nous dit que cette croissance-là, elle est fictive, c'est ce qu'on nous dit.
Une croissance qui ne profite pas à la population.
Mais je suis désolé, mais les enfants des Moubaké, les enfants de mon frère Tchombela vont à l'école à bord des bus Transco, acquis il y a 2 ans, avec des ressources générées par quoi? Générées par la bouse de vache? Je veux savoir. Mais le programme d'octroi des bus à crédit, qui court jusqu'en ce moment, le programme Esprit de vie, au nom duquel les Congolais accèdent maintenant à crédit, à des bus neufs, s'il vous plaît. Mais ce programme-là, il est mis en œuvre. Grâce à quel financement? Les ressources sont venues de la part de qui? M. Mbaké me dit, ce n'est pas possible. À Bukangalonzo, c'est des stagiaires. Y a-t-il
été? Des journaliers.
Ils
travaillent sans contrat.
Je suis désolé, moi je suis consultant.
Vous nous confirmez qu'il y a accident des contrats?
Je suis consultant à ces projets-là.
Mais Bukangalonzo n'est pas à Mbujimayi, à Paradje,
Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'emploie pas des Congolais. Il est au Congo. Ce n'est pas pour autant qu'il n'emploie pas les chômeurs congolais d'hier. Il emploie les Congolais. Mais attention, on n'a pas dit que tous ceux qui emploient le Congo et les Congolais, c'est Bukangalonzo. Il y a des projets privés dans les secteurs de mines, dans beaucoup de secteurs qui sont nés et qui sont en train d'employer les Congolais. J'ai dit, faisons attention, ces écoles qui naissent des ruines, les ruines dans lesquelles nous avons plongé, nous avons pillé les écoles, elles naissent aujourd'hui, elles naissent grâce à quel financement? Si notre économie n'a pas généré des richesses, ces financements nous viennent de qui?
En conclusion,
je dis, les murs d'ignorance que nous dressons devant nous, à cause de notre arrogance, nous empêche de voir la réalité en face. La réalité, ce sont ces routes des qualités sur lesquelles nous marchons.
Merci.
La réalité, ce sont ces écoles où vont nos enfants.
Merci,
opposition
Franklin.
Comme pouvoir, comme société
civile. Merci, Franklin Chamala, Valentin Moubaké. Merci beaucoup, Valentin Moubaké. Vous allez conclure aussi.
Madame, vous vous rappelez les PPTE, les points d'achèvement. On vous disait que tout allait devenir rose après le point d'achèvement. C'est un gouvernement comme les autres qui lui ont succédé dans le cas de l'AFDEL qui ne peut rien faire pour les Congolais. Un pouvoir extériste ne peut que produire ces résultats.
Vous êtes très pessimiste.
Mais les résultats sont là. Nous n'avons dans aucun secteur, en 17 ans, plus bientôt, du kabilisme, avancé d'un seul pas. Aucun secteur. La sécurité, on en a parlé ici. Les gens meurent partout. L'économie, c'est encore grave, avec une prédation organisée à travers un code minier où on pille et tout. Et les miettes qui restent au Congo, c'est ça les Transco, c'est ça les 500 écoles qu'on est en train de nous chanter. Alors que 40 milliards de dollars, depuis que Kabila est là, ont été transférés à l'étranger dans le secteur minier.
Merci Valentin Moubaké, Jonas Tchombela.
Oui, je pense que le parlant de bus, c'est très difficile, pas l'heure n'est pas au rendez-vous. Nous aurions souhaité que les étudiants aient reçu des bourses pendant ce temps pour qu'on puisse parler du social, que les choses se sont très bien organisées et qu'ils partent aussi à l'université avec deux bus, comme ils l'ont fait. Il a été prévu 9500 écoles 2013 à 2015. Qu'on peut nous dire à combien on est arrivé, à quel rythme
c'est arrivé? À 500.
À 400. Alors qu'il était prévu dans 2015 qu'on en ait 9500. C'est pour vous dire que c'est très difficile de dire, de s'évaluer seul. Je pense, moi, à l'évaluation externe qui doit venir d'une institution non partisane et qui peut être un peu plus objective.
Merci, Jonas Jombela, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer et réaliser cette émission. Guy Mathieu Alain Rung, Berry Fonclair Loutchaka, sous la supervision de Ben Kabamba. Merci à Willem Lungamba qui est à la prise de son. Au micro, Kéline Couté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.